nous recommande pour cet enseignement encore à l'action du Saint-Esprit, qu'il dispose nos cœurs, qu'il soit véritablement au cœur même de cet enseignement, que nous sortions de cet enseignement véritablement nourris et grandis encore, et que l'œuvre du Seigneur Jésus se fasse véritablement dans nos vies. Alors, je disais que on va démarrer l'enseignement, on va dire, par une petite story time. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'on est dans l'eschatologie, pour ceux qui ne savent pas, je suis responsable de la commission parole, et donc, au début de la semaine, je contacte le berger pour lui dire, bah, tiens, berger, au fait, le samedi, on a l'enseignement sur le paradis. Et étant donné qu'on est dans l'eschatologie et que c'est des thèmes qui sont assez lourds, c'est des gros thèmes, donc je m'approche de lui, je lui demandais mais qu'est-ce qu'on va faire, comment faudrait qu'on trouve en fait un enseignant, un intervenant en fait qui soit de taille pour bien clôturer la session sur l'eschatologie et tout ça. Et on est en train de réfléchir. Et c'est vrai, il faut dire que quand on établissait le programme du trimestre, on avait déjà les deux premiers intervenants, mais il y avait personne pour le troisième intervenant, donc pour le paradis. Et le berger s'était proposé de mettre mon nom comme ça, et c'était vraiment sans conviction. Et donc quand je le relance, c'est lui qui me rappelle que c'est toi qui es censé faire l'eschatologie. J'ai dit que non, c'est pas du tout. On avait mis ça comme ça. Et non, ça veut pas dire que c'est moi. Tu sais que c'est des personnes bien spécifiques qui sont censées intervenir pour les thèmes concernant l'eschatologie. Et vraiment, je vous assure que on ne sait même pas comment ça s'est passé. Mais ça a été convenu que non, c'est toi qui vas faire l'eschatologie. Et sur le coup, j'ai dit, je ne sais pas si André est là, il est connecté, mais il confirmera, j'ai dit vraiment sans assurance, je lui ai dit que ok, je vais faire l'eschatologie. C'est marrant parce que je n'étais pas forcément préparée, et pour moi, c'est des thèmes qui doivent être abordés par des gens qui sont bien spécifiques, mais je bénis Dieu de m'avoir choisi pour on va dire pour nous édifier, parce que la parole qui est libérée édifie d'abord celui de qui en fait elle sort. Donc je bénis Dieu pour cela, c'est vraiment magnifique qu'il fasse son œuvre, et je me fais vraiment son instrument pour véritablement nous édifier ce soir. Alors pour parler de l'esprit du paradis à proprement dit, on peut dire quoi comme introduction? La vie en général est régie, la vie sous toutes ses formes, sous la forme spirituelle, charnelle, et tout ça est régie par la volonté de Dieu justement pour la création. C'est Dieu qui nous a créés, et au commencement, nous étions confortablement installés dans le jardin d'Éden, et en péchant, en fait, le péché est venu comme nous soustraire du confort, en fait, dans lequel nous étions à la création. Le péché nous a donc plongé, nous a arraché de notre confort et plongé dans le combat de la vie terrestre, avec le schéma, en fait, qui se répète pour chaque individu, pour chaque être humain, donc la naissance et la mort. Donc, entre la naissance et la mort, entre notre naissance et notre mort, il y a donc la vie qui intervient comme un passage, comme un chemin qui, grâce à Dieu, est supportable d'une certaine façon. À la fin de notre vie, nous sommes comme destinés après analyse de notre parcours, après analyse de nos actes, de la vie justement que nous avons menée. Nous sommes destinés donc à rejoindre le paradis selon le plan d'amour de Dieu, ou l'enfer selon son plan de justice. parce que l'enfer existe, non pas pour que nous y allions, mais parce que Dieu est juste et que, voilà, il ne peut pas laisser des personnes qui se sont plus à commettre le mal le rejoindre dans le paradis, ce n'est pas possible. Donc voilà, le paradis s'inscrit dans le plan d'amour de Dieu pour l'homme et l'enfer dans son plan de justice. Nous avons vu l'enfer, nous avons déjà vu l'enfer avec le frère André. Je ne notifie pas le purgatoire. Pourquoi ? Parce que le purgatoire s'inscrit dans le cadre en fait du paradis. On va au purgatoire pour aller au paradis. Et donc, voilà, ça reste toujours dans le cheminement. Donc, les grands actes, les deux grands ponts, les deux grandes finalités, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Le père Édouard nous a entretenu la semaine dernière sur le purgatoire qui va être, il désignait le purgatoire comme la plus belle invention de la miséricorde de Dieu qui nous permet de nous purifier justement avant de le rejoindre. Et ce soir, nous allons donc aborder le paradis. C'est quoi le paradis ? Le paradis, c'est le lieu où en définition du dictionnaire, le lieu où les âmes des justes jouissent de la béatitude éternelle. Définition du petit Robert. Une autre source déclare que le paradis est ce lieu où les âmes des élus séjournent après la mort. Mais d'où vient le terme paradis ? Le terme paradis vient du latin paradisus, qui fait référence en fait à un jardin, à un enclos où il y a de la végétation et tout ça. En grec, le paradis est désigné par paraidesos, qui renvoie également au jardin. Et en hébreu, le terme paradis est désigné par Gan Eden ou Eden. Parce qu'en effet, dans ces trois origines justement du terme paradis, que ce soit en latin, en grec ou en hébreu, nous renvoie à ce qu'on peut qualifier en fait de paradis terrestre, donc au jardin d'Éden, comme on le sait, où il y a de la végétation, où il y a des animaux et tout ça, il y a des arbres, il y a des fruits et tout ce qui est merveilleux là qui nous est décrit justement dans la Genèse. Donc le paradis originel, c'est le jardin d'Éden, qui est le paradis terrestre, et où vivaient justement Adam et Ève originellement. Et beaucoup d'auteurs s'accordent à dire même que ben voilà, le paradis, l'Éden, le jardin d'Éden étant terrestre, il se situerait quelque part dans le Moyen-Orient ou alors en Iran, quelque part par là-bas, chacun selon sa conception. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Géographiquement, c'est les endroits qui, de notre temps, on a du mal à s'imaginer que là-bas, c'était le paradis ou alors même que c'était l'Éden. C'est un peu compliqué, tellement c'est l'atmosphère qui règne un peu bizarre. Bon, bref, donc pour les chrétiens, lui, certes, le paradis terrestre, c'est l'Éden. Mais le paradis, c'est surtout le paradis céleste, donc la demeure des justes après la mort. Et on peut aussi dire que le paradis, c'est le lieu de l'éternité, le lieu du bonheur absolu, comme dans les définitions justement qui ont été données par la littérature. Mais pour l'Église, oui, le paradis, c'est le lieu de l'éternité. Pour les chrétiens, le lieu de l'éternité, le lieu où l'on vit dans la justice après notre mort. Quelle est la conception de... Amen ? Est-ce qu'on m'entend ? Allô ?
Oui, on t'entend.
Ok, merci. Alors, quelle est la conception des autres confessions religieuses ? Il faut dire que pour les juifs, donc dans le judaïsme, le paradis n'existe pas. Les juifs ne mentionnent pas le paradis, ne croient pas. Il n'y a pas de paradis. Il y a ce qu'on appelle le Sheol. C'était le lieu en fait de séjour des âmes défunts avant leur disparition définitive. Donc pour les Juifs, c'est ça. Il n'y a pas de paradis. Une fois qu'on meurt, il y a un endroit où on va comme ça avant de complètement disparaître. Et chez nos frères musulmans, le paradis qu'ils appellent la Jannah est le lieu en fait de récompense. C'est vraiment le lieu de récompense des pieuses, là où où en fait toutes les âmes des pieux rentrent en fait après la mort. C'est un lieu, on va dire c'est paradisiaque, hein. Lieu où leur sont réservés en fait de grandes richesses, des nouveaux habits, tout ce qui tape à l'œil, de l'or, où les seules personnes en fait qui justement ne sont pas autorisées à aller, pour les musulmans, les seules personnes qui ne sont pas autorisées à accéder au paradis, donc à la Jannah, ce sont les alcooliques. Voici pourquoi bon, pour ceux qui fréquentent un peu les musulmans et tout ça, ils ont une petite obsession là pour l'alcool et tout ça. Ils disent que oui, non, absolument pas. C'est justement parce que pour les musulmans, ne rentrent pas au paradis les alcooliques, les femmes qui se masculinisent, on va dire ça comme ça, qui cherchent à devenir des garçons, et ce qu'on appelle les dahuts, donc les personnes en fait qui ne veillent pas sur leur famille, qui en fait regardent, qui sont témoins en fait, qui se prêtent en fait au témoignage de la perdition. Donc voilà la conception du paradis pour les autres confessions religieuses. Qu'en est-il de l'Église catholique en elle-même, du christianisme? Il faut dire que le Saint-Père, le pape François, le père de l'Église catholique, définit le paradis comme le lieu d'étreinte avec Dieu. C'est une étreinte, le paradis, c'est une étreinte avec Dieu, une communion éternelle qui est à dissocier en fait d'un conte de fées ou alors vraiment de quelque chose de féerique. Dans la Bible, déjà, saint Paul nous disait justement que le paradis, je pense que c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Le paradis, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Et le paradis est tout ce que Dieu en fait a préparé pour ceux qu'il aime. Pas pour ceux que lui, il aime, mais pour les personnes qui aiment Dieu. Pour les personnes qui aiment Dieu, Dieu leur réserve quelque chose. Allô?
Allô?
Oui?
Y a que moi ou...
Vous m'entendez?
Vous entendez? Moi, j'entends rien. Est-ce que moi, on entend?
Moi, j'entends.
Si, si,
J'entends bien.
J'entends.
D'accord. Ok, je poursuis alors. Donc, je disais que saint Paul dit que le paradis, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et c'est véritablement tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment lui, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le catholisme de l'Église catholique dit du paradis qu'il est un état de bonheur suprême, définitif, une promesse de vivre toujours avec le Christ pour ceux qui meurent dans la grâce et dans l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés. Donc, cette dernière proposition ramène justement au purgatoire. Donc, c'est un clin d'œil au purgatoire. Voilà, on sait qu'on est purifié là-bas avant de le rejoindre. Donc, bien-aimé, le catholisme de l'Église catholique dit encore qu'il s'agit véritablement justement d'une communion parfaite. Et ceux qui accèdent en fait au paradis sont véritablement semblables à Dieu pour toujours. Et c'est parce qu'ils sont véritablement parfaits qu'ils peuvent le contempler face à face. Au paradis, il n'y a donc aucune notion temporelle, il n'y a pas de notion d'espace. Tout est infini, tout est infiniment beau, tout est infiniment grand, tout est à l'image justement du Créateur. On peut, par cette définition du catéchisme de l'Église catholique, on peut donc comprendre que notre conception humaine du paradis est c'est utopique, c'est nous sommes complètement en fait, on peut dire à côté de la plaque, on a si véritablement l'image qu'on se fait du paradis, c'est une image qui prend des références terrestres, on est absolument à côté de la plaque. On n'a encore rien vu, comme on dit au quartier. Pour comprendre donc le paradis, frères et sœurs, il faut dire que Jésus, c'est Jésus qui... Il y a très peu de références, en fait, dans la Bible par rapport au terme paradis en lui-même. Et c'est Jésus, au moment de sa mort, qui, s'adressant au bandit à son côté, vient notifie, en fait, qui vient citer ce terme pour la première fois, vous renvoie dans la Bible, en fait, dans Luc 23, au chapitre 43. Donc, Jésus s'adressant au bandit qui, à son côté, se répand. Ce bandit va s'offusquer du sort, justement, de Jésus qui est juste, mais qui est là. Et Jésus, l'entendant, déclare que... Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis s'inscrit alors, donc, pour comprendre le paradis, il faut accepter de mourir, ou il faut arriver justement à l'étape justement de la mort pour prendre part à la résurrection et donc à la vie. Le paradis, c'est donc ça. Si les descriptions matérielles, en fait, que nous avons du paradis sont impensables, sont totalement absurdes, Jésus, au travers de sa vie, va quand même utiliser des analogies, on va dire comme ça, dans la Bible, où il va comparer le royaume des cieux, parce que oui, c'est ça le paradis, c'est là où nous allons aller, justement, lorsque nous allons. Après notre mort charnelle, lorsque nos enveloppes charnelles auront été glorifiées et donc pourront le rejoindre plus haut, lorsque nous serions détachés véritablement de toute notre humanité terrestre, nous recevrons justement le paradis en héritage. Mais comment accéder justement à ce paradis? Comment faire pour aller au paradis? Bien-aimés, la Bible déclare dans Jean 1, dans Jean 3, au chapitre, Jean au chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoivent en héritage la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a créé personne pour l'enfer. Personne n'est prédestiné pour l'enfer. Personne n'est prédestiné véritablement pour ce lieu. Ayant été corrompu justement par le péché, il fallait pour Dieu, un moyen sûr et incorruptible pour nous récupérer, pour nous arracher justement de notre condition de pécheur. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils. Dieu s'est alors fait homme pour que nos yeux voient la perfection, que nos yeux s'inspirent de cette perfection-là. On le dit dans Jean 1 encore que le Verbe s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est pourquoi la foi en Jésus-Christ est au premier plan dans l'accès, les clés, les conditions d'accès au paradis. Il faut croire en Jésus, sauveur du monde, sauveur de l'humanité. La foi est au premier plan, bien-aimé. La foi vertueuse, la foi vive, la force vive, l'espérance en l'agir du Dieu vivant. Et saint Paul nous le rappelle encore dans le Romains au chapitre 10, au verset 9. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Voici pourquoi il faudrait justement que dans nos vies attestent de notre foi. Et comment est-ce que... Qu'est-ce qui, dans nos vies, en fait, atteste justement de la foi? Il y a comme premier élément, nous avons le baptême. Le baptême qui s'inscrit dans un cadre, en fait, de conversion, en fait, de l'homme. C'est le sacrement qui va marquer justement l'appartenance à la famille chrétienne, déjà, donc l'appartenance au Christ, mais surtout qui atteste en fait de l'acceptation du Christ et donc la conversion du cœur. Amen.
Amen.
Le baptême s'inscrit justement comme cette nouvelle naissance et Jésus justement le dit si bien dans Jean 3 au chapitre 3 où il déclare que pour hériter du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, il faut être baptisé dans le nom de Jésus. Par le baptême, nous sommes marqués du sceau, un sceau puissant qui marque justement notre appartenance à la grande famille chrétienne. Et Jésus le dit encore dans Jean 1, à tous ceux qui ont reçu. Tous ceux qui ont reçu justement le baptême, tous ceux qui ont reçu. Parce que si quelqu'un qui se fait baptiser accepte d'appartenir à la grande famille des chrétiens, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dit la parole dans Jean 1 au chapitre 12. Bien-aimés, voici la puissance de la foi. La foi, c'est ça. La foi qui ouvre les portes du paradis. Lequel d'entre nous ne donnerait pas de bonnes choses justement à son enfant, le dit encore dans la parole, personne, aucun d'entre nous veut refuser de bonnes choses à son enfant. Mais Dieu, justement, à toutes les personnes qui reçoivent le baptême et donc qui deviennent enfants de Dieu, Dieu nous offre en héritage justement le paradis, étant donné que nous devenons par le baptême des enfants, non plus par la création. Parce que par la création, à notre naissance, nous sommes tout simplement des créatures. Mais c'est par notre baptême que nous devenons enfants de Dieu. Et que donc, nous sommes jugés dignes, en fait, de... Bon, pas jugés dignes, mais nous mettons déjà, nous faisons le premier pas pour rentrer dans les conditions, justement, d'obtention de l'héritage, de notre héritage et donc du royaume de Dieu. Nous acceptons de recevoir le Verbe, nous acceptons de recevoir la parole de la vérité et de la vie qui est Jésus-Christ. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible déclare encore « Il n'y a sur la terre qu'un seul nom qui puisse sauver, et c'est celui de Jésus-Christ. » Donc, comment croire, comment accéder au royaume, comment accéder au paradis et donc à notre héritage? Nous devons croire que Jésus a été envoyé, que l'amour de Dieu a surpassé véritablement le péché et c'est pourquoi Jésus est venu sur terre. Par cette nouvelle naissance et donc par notre baptême, nous sommes appelés justement, nous chrétiens, pour accéder au paradis, à nous détacher véritablement donc de notre vie terrestre. La nouvelle naissance nous arrache à notre condition de créature. Amen. La nouvelle naissance.
Amen.
Nous faire vivre sur la terre désormais par la foi et donc nous arracher, nous faire minimiser en fait toute réalité terrestre et donc réaliser, je vais dire ça comme ça, accepter plutôt les réalités célestes, nous détacher de tout ce qui nous environne. C'est pourquoi On dit souvent, bien aimé, que le royaume de Dieu se trouve ici-bas. Accéder au paradis, pour accéder au paradis, il faut avoir la foi et réaliser véritablement que tout ce qui est sur terre, tout ce qui a été créé par Dieu, y compris nous-mêmes les hommes, nous lui appartenons. Il n'est donc pas question de surconsidérer tout ce qui est matériel, frères et sœurs, ce n'est pas possible. C'est impensable. Quelqu'un qui a reçu le baptême et qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui veut accéder au paradis, qui doit prendre part à son héritage, doit se détacher de tout ce qui est matériel. Parce que tout ce qui est matériel est loin d'être, très loin d'être représentatif de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu nous réserve en haut, au paradis, justement, bien plus grand. Nous devons donc nous détacher de tout ce qui est matériel, des richesses et des mondanités. Bien aimé, dans Marc, au chapitre 10, des versets 17 jusqu'à 30, justement, il y a cet échange entre Dieu et Jésus et cet homme qui lui demande que faut-il faire justement pour avoir en héritage la vie éternelle. Et la réponse de Dieu est claire, il va le renvoyer d'abord à l'observation, l'observance, on va dire ça comme ça, des commandements. Et l'homme est content, il se dit, oui, je fais tout ça. Mais après, Dieu lui dit, c'est bien, Dieu se mit à l'aimer et lui dit, très bien, il te reste une chose à faire, va et vends tout ce que tu as. Et à partir de ce moment, ben, il est triste. Il est triste parce que qu'est-ce que Jésus lui demande de faire? Jésus lui demande de se dépouiller justement de son bien. Et sachant qu'il avait de très grands biens, il est triste parce que pour lui, se détacher de tout ce qui est terrestre, de toutes ses fortunes, pour lui, ça, c'est impensable. Mais la Bible déclare que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Le baptême, justement, accepter, aspirer au paradis, c'est se détacher de ça. C'est se détacher véritablement de ça. Le paradis de Dieu, c'est le bonheur infini, la vie éternelle. C'est connaître Dieu, non pas de savoir que Dieu existe, mais d'éprouver ou de rechercher la paix que seul celui qui nous justifie peut nous conférer. Et aucune sécurité matérielle, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Aucune sécurité matérielle n'est comparable à l'extase, au bonheur infini que nous procurera la contemplation de l'éternité lorsque nous serons dans les cieux. Bien aimé, amasser des richesses, c'est bien, mais pourquoi le faire? Pourquoi le faire si cela nous détache, cela nous arrache à notre héritage? Ça ne sert véritablement à rien. Amen. Frères et sœurs, tout ce que nous avons sur la terre restera. Aucun de nous, nous l'avons dit, la vie, c'est un passage. Pour accéder au paradis, nous devons mourir. Et aucun de nous, aucun de tout ce que nous aurons amassé sur la terre, nous l'emporterions nulle part. Aucun de nous ne sera jugé plus beau ou notre l'accès au paradis ne dépend pas de qui aura des bagues en or, qui sera le plus paré. Ce n'est pas possible. Tout ceci n'est que vanité. Notre corps renaît, notre corps, nous prenons part à la résurrection. Parce que le Christ nous glorifie notre corps. Ce n'est pas parce que les anges auront fait le décompte, en fait, duquel de nous aura le plus grand, aura le compte en banque le plus rempli. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, la Bible déclare dans Matthieu, au chapitre 29, des versets 24, qu'il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'accéder au royaume des cieux. Donc, bien-aimé, nous accédons au paradis par la foi véritable en Dieu, par la reconnaissance que Dieu veut nous sauver et qu'il a envoyé son fils Jésus pour le faire et à la suite de cette conversion, donc de notre baptême, nous devons véritablement nous détacher de notre vie terrestre. Nous devons nous détacher de tout ce qui est matériel. Mais après nous être détachés de tout ce qui est matériel, bien aimé, se rattacher aux réalités célestes, c'est aussi se détourner véritablement de ses péchés. N'entrera au paradis que celui qui aura mis en exerce sa volonté de plaire véritablement à Dieu. Car Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Se détacher de la vie céleste, la vie terrestre, c'est accepter d'épouser la condition d'Église et donc d'épouser le Christ. C'est renoncer véritablement au péché par une volonté constante et indestructible de lui appartenir. Amen. C'est une volonté de
Amen.
Demeurer en état de grâce, se détourner de ses péchés. C'est la volonté, c'est manifester la volonté de se détourner, de demeurer en état de grâce. Cela implique pour l'homme la volonté d'être sauvé, la volonté justement d'accéder à ce paradis. Il faudrait pour cela se détourner justement de sa mauvaise conduite. Et dans Matthieu 4, verset 17, Jésus le dit si bien, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'homme qui est la créature doit véritablement être à l'image de son créateur. Et Jésus nous invite encore pour nous détourner de nos péchés, de nous détourner de notre mauvaise conduite. Il nous invite à être des êtres justes, à demeurer dans la justice. Car si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, il le dit dans Matthieu 5 au verset 20, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On n'obtiendra pas, nous n'irons pas au paradis si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, bien-aimés. Détournons-nous véritablement de nos mauvaises conduites, du Congossa, du cœur dur, de la méchanceté gratuite, de la fornication, de la luxure, de la paresse. Bien-aimé, tu as un travail, l'autre n'en a pas, mais tu pars tous les jours au travail, tu ne fais rien. Ton patron te demande, te donne des tâches, tu les négliges. Il faut que chacun de nous se détourne de ses mauvaises conduites. Et chacun de nous sait ce qu'il fait qui n'est pas bien. Jésus nous invite justement à descendre de notre piédestal et à nous comporter justement comme des enfants. Jésus nous invite à être comme des enfants, totalement insoucieux et à demeurer dans la confiance totale. Pourquoi ? Je pense que c'est dans Matthieu 7, excusez-moi, je n'ai pas noté la référence. Pourquoi Jésus nous demande d'être comme des enfants ? Parce que un enfant, il a le cœur pur. Un enfant à qui on va taper un enfant tout de suite, bien-aimé. L'enfant, il va oublier. Tu vas le taper, il va pleurer tout de suite, mais la minute d'après, il va te faire un câlin, il va te sourire, il va rire aux éclats. Un enfant ne médite pas le mal dans son cœur. Voici pourquoi Jésus nous invite à être justement comme des enfants, à avoir le cœur qui ne soupçonne rien, mais avoir le cœur qui est toujours disposé à aimer, à pratiquer le bien, insouciamment, se détourner de son péché. C'est aussi, et c'est d'abord, bien-aimé, demander pardon. Amen. Et Saint Paul nous y exhorte Bien-aimé, Saint Paul nous y exhorte dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 des versets 20. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Combien parmi nous méprisent, bien-aimé, combien parmi nous méprisent le sacrement de réconciliation? Dieu dit, celui qui croit doit se détourner de sa mauvaise conduite. Se détourner de sa mauvaise conduite, c'est aller demander pardon à la personne à qui nous avons fait du mal. Amen. À la personne Amen. Avec qui nous sommes froid, à la personne avec qui nous n'adressons pas la parole, bien-aimée. À nous laisser réconcilier. Combien parmi nous méprisent le sacrement de réconciliation? Oh oui, non, moi je ne peux pas, non, les prêtres d'aujourd'hui sont trop bizarres. Oh, le prêtre, c'est qui? Le prêtre, c'est un homme comme moi, non, pourquoi je vais aller me faire confesser? Mais bien-aimé, pour aller au ciel, pour obtenir en héritage le paradis, il faut confesser ses péchés. Amen. Il faut confesser, il faut reconnaître son tort.
Amen.
Repartir vers son prochain, aller dire, mon frère, ma soeur, je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Mais il faut d'abord repartir vers Dieu. C'est pourquoi Dieu met à notre disposition tous les outils pour revenir à lui. Bien-aimé, la honte là, la honte qui nous anime, la honte qui fait que nous ne repartions pas vers l'autre là, la honte là, c'est de l'orgueil et c'est un péché capital. C'est le péché capital par lequel le malin nous tient captifs. La honte là, c'est la captivité. Nous devons y renoncer. Par la honte, par l'orgueil, nous entretenons nos chaînes, bien-aimés. On a du mal à parler. Les choses dont on a du mal à parler sont les choses dont on n'a pas encore pu véritablement se détacher. Un enfant de Dieu retourne toujours vers son Père. Il retourne vers son Père. Un enfant de Dieu retourne vers son Père parce qu'il a confiance en son amour. Il sait que l'amour de son Père, l'amour d'un Père, l'amour d'un parent, à plus forte raison, l'amour de Dieu ne finit pas, l'amour de Dieu ne s'épuise pas. Nous pouvons prendre même, concernant ce passage, l'amour de Dieu, nous pouvons prendre en référence la parabole de l'enfant prodigue, bien-aimé. Dieu nous garde toujours la meilleure part parce qu'il veut, parce que dans son plan glorieux, dans son plan originel, il nous a créés pour l'éternité et donc pour le paradis. Bien-aimés, acceptons alors de nous détourner de nos mauvaises conduites en commençant par demander pardon. Amen. Que faut-il faire Amen. Pour aller au paradis, justement? Dieu, Jésus nous invite encore. Dieu, Jésus nous invite, justement, aux tips. Pour accéder au paradis, Jésus nous invite à vivre tout simplement les béatitudes. Il le dit dans Matthieu 5, heureux les pauvres de cœur, que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle en héritage? Il faut être pauvre de cœur, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim, il faut pratiquer la justice. Heureux les doux, ils recevront en héritage la terre promise, la nouvelle Jérusalem qui nous est proclamée dans l'Apocalypse au chapitre 21. Il faut être doux. Il faut savoir consoler ceux qui pleurent, vivre les béatitudes. Il faut être miséricordieux. Aujourd'hui, le ciel nous est véritablement livré selon justement que nous nous appliquions à vivre et à faire vivre à notre prochain, justement, les béatitudes déjà sur la terre. Parce que justement, si nous revenons, Seigneur, nous revenons, bien-aimés, à la définition du paradis, nous avons dit plus haut que c'est le lieu où les âmes des justes jouissent de la béatitude éternelle. Commençons à vivre véritablement les béatitudes auxquelles Jésus nous appelle sur cette terre. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Appliquons-nous à vivre véritablement les béatitudes pour pouvoir accéder à notre héritage. Jésus nous interpelle encore, Jésus nous interpelle par rapport à notre tenue d'apparat. Pour accéder au paradis, il ne suffit pas d'aller crier dans les assemblées « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Dieu ne nous reconnaît pas à cela. Il faut véritablement vivre un état, un abandon à l'agir de Dieu. Il ira au paradis, celui qui se sera connecté, celui dans la vie témoignera vraiment de l'abandon, celui qui aura renoncé à ses sentiments, celui qui aura accepté sa mission, qui aura accepté la volonté parfaite de Dieu pour son existence. Seigneur, nous comprenons alors par là que notre vie, toute notre existence, quel que soit ce que nous traversons, nous devons rendre à Dieu, nous devons rendre à l'Éternel le culte qu'il mérite. Dès lors, nous nous disons que véritablement, que notre adoration, Seigneur, ne dépend pas des circonstances. Vivre l'abandon, c'est cela. C'est rendre grâce à Dieu, louer l'Éternel, quelle que soit la situation que nous vivons, que la louange que nous lui voulons soit véritable. Seigneur, je te loue pour tout. Je te loue pour la pluie. Je te loue pour l'orage. Je te loue pour les inondations. Je te loue pour tout ce qui se passe dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu as un plan. Je sais que tu vas agir. Amen. Je sais que tu vas faire.
Amen. Amen.
Je sais que tu vas encore faire. Je sais que tu es là au cœur de ma vie et c'est toi, Seigneur, qui me fais vivre. Que ma confiance,
Amen.
Seigneur, en ton intervention soit véritablement inébranlable. Dans Romains 8, au chapitre, Romains chapitre 8, au verset 35, la question nous est posée. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu, c'est ce qui va t'empêcher d'aller au paradis. Comment accéder au paradis? Fais véritablement que tout ce qui dans ta vie encore te sépare de l'amour de Dieu t'empêche d'accéder à ton héritage. Tu puisses le confier véritablement à Dieu, le déposer au pied de la croix et expérimenter véritablement l'abandon. Et bien aimé, je vais répondre à quelques questions, disons, fort de cette analyse. C'est des types qu'on vient de décliner. On peut alors se poser la question, mais qui peut aller au paradis? Qui peut aller au paradis? Bien aimé, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Pour nous tous d'ailleurs. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que ben, personne, aucun de nous, aucun de nous n'est en état de perfection et donc aucun de nous ne peut accéder au paradis. Et dans Romains 3, au chapitre Romains 3, verset 23, c'est dit « Personne ne va au paradis par lui-même, aucune de nos bonnes œuvres. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller au paradis parce que nous sommes des pécheurs. » Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce qui est impossible à l'homme, Dieu le fait. Tout est possible à Dieu, tout est possible à Dieu. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, si par toi-même, tu ne peux pas, si par nous-mêmes, par nos agissements, par nos manquements de foi, nous sommes d'emblée condamnés, l'amour de Dieu nous sauve. Et avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, justement, est le miracle que Dieu opère véritablement dans nos vies en rendant possible cette inaccessibilité du paradis, du royaume de Dieu, par nos fautes, par nos péchés. La deuxième question à laquelle nous sommes appelés peut-être à répondre, que nous pouvons nous poser ce soir, c'est « Mais où vont alors toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus? Est-ce qu'ils vont en enfer? Qu'est-ce qui se passe pour eux ?» Bien-aimé, la Bible déclare, la Bible répond à cette question dans Romains, au chapitre 2. Ça dépend de ce pourquoi vous ne croyez pas en Dieu. Est-ce que c'est parce que on ne va pas condamner aujourd'hui les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ou alors les musulmans à qui on ne cesse de répéter que voilà, tout ce qui est dans la Bible, c'est faux? Où vont toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu? Ça dépend, comme je disais, ça dépend de la raison pour laquelle les personnes ne croient pas. Ça dépend de leur quête, justement, leur façon de chercher la vérité dans leur cœur, si tant est qu'ils en font une quête existentielle, du bien, la recherche du bien, de pourquoi le bien, pourquoi le mal, comment se passe la vie dans l'au-delà. Et ça dépend aussi de notre façon, ou alors de leur façon de justement savoir écouter la voix de leur conscience dans les choses importantes, dans les situations qui sont difficiles. L'Église s'entend à dire que Dieu ne prive pas des moyens du salut ces personnes-là qui n'ont pas connu Jésus. Dès lors que l'on sait, ou alors qu'on a pu comprendre par cette question que tout le monde peut alors aller au paradis, on peut se demander, mais ça sert alors à quoi? À quoi sert-il en fait de devenir chrétien? À quoi sert-il en fait d'être chrétien et donc de croire au Christ? La réponse à cette question est toute simple. On a tendance à dire que il n'y a pas que l'école pour réussir, il y a plusieurs moyens pour réussir, mais on convient tous que l'école est le moyen le plus sûr. Jésus-Christ est le meilleur des moyens justement pour accéder au paradis, et la beauté justement du christianisme, c'est ça, la beauté. Par le christianisme, nous avons justement comme témoignage la vie de Jésus qui est descendu du ciel, qui s'est fait homme, qui a épousé notre condition pour nous montrer que nous ne sommes pas condamnés. Bien que nous vivions sur la terre, nous pouvons vivre, une vie parfaite. Jésus l'a fait. Donc Jésus est un exemple pour tous les chrétiens. C'est un chemin, Jésus est le chemin justement qui est là pour nous conduire, pour nous guider. Par le christianisme, être chrétien, c'est avoir justement une discipline, avoir par l'exercice des sacrements, justement, pour ceux qui sont catholiques, l'exercice des sacrements, être chrétien, ça nous permet d'avoir des guidelines, ça nous permet en fait d'être sur le chemin justement sécuritaire qui va nous mener justement au paradis. Au final, la question, j'ai envie de dire, la question ne se pose même pas pourquoi être chrétien. Non, la question ne se pose plus. Dieu fait grâce à qui il veut, certes, et les voies du Seigneur sont impénétrables, mais la vérité, Jésus est la vérité, et la vérité est là. La vérité est là dans nos cœurs, et elle est là, la vérité est là dans nos cœurs, et elle s'inscrit comme la lumière qui éclaire le chemin de chacun de nous afin de parvenir assurément à la source de la vie et donc au royaume des cieux, au bonheur éternel. Et je vais finir par ça. Bien-aimé, Jésus est tout ce que nous avons. Le paradis n'est pas un conte de fées. Le paradis est une réalité. Le paradis s'inscrit dans le plan, justement, le plan parfait que Dieu a depuis la création de l'homme. Le paradis est ce lieu où nous allons contempler Dieu dans toute sa grandeur, parce que nous ne sommes pas appelés à être des êtres terrestres, à être des êtres charnels et donc rattachés à tout ce que nous voyons, mais nous sommes appelés depuis la création à être des êtres de lumière. Et je pense que c'est Sainte Mère Teresa, je pense, qui lorsqu'elle décrit le paradis, dit justement que la simple perception de la lumière du séjour divin, c'est tellement incroyable qu'à contrario, quand on vient regarder le soleil, mais le soleil a l'air tellement moche. Le paradis doit être le désir de nos cœurs, nous devons le chercher dans notre vie. Nous devons le chercher, le rechercher à travers la vie en Christ, à travers la conversion de nos cœurs, à travers le fait pour nous de nous détourner. Accéder au paradis, c'est se détourner de nos mauvaises conduites, c'est se détourner de tout ce qui est terrestre, c'est vivre les béatitudes, c'est accepter dans nos cœurs et confesser de nos bouches, accepter la mission justement de Dieu, c'est cheminer par Christ et pour Christ, pour pouvoir ne faire qu'un avec lui, les anges et tous les saints dans l'éternité. Amen, amen, amen.
Amen.
Amen. Amen. Alléluia, amen. Merci. Merci Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci Sœur Paul-Marie.